Chapitre 2e. Athènes et Solon. En l'an 624 avant l'ère chrétienne, Dracon avait donné des lois aux Athéniens, mais la rigueur en était telle qu'elles tombaient rapidement en désuétude. Il fallut songer à refaire l'édifice législatif. L'Attique était divisée par les factions. L'œuvre présentait d'immenses difficultés. Solon, eupatride de la race de Codrus, aurait pu facilement se revêtir de la pourpre royale. Il préféra le rôle d'un grand citoyen et se fit élire archonte en 594. Il avait alors 44 ans. Peu après, il proclamait ses lois et les Athéniens s'engageaient par serment à les observer pendant un siècle. Le système de Solon fut tout autre que celui de Lycurgue, et c'est à juste titre qu'on a placé les lois de Solon en première ligne parmi les produits de la pensée humaine. Moins préoccupé que le législateur de Sparte de façonner son peuple sur un patron idéal, Solon resta dans les conditions de l'humanité et s'appliqua, comme il le dit lui-même, à donner aux Athéniens non pas les meilleures lois, mais celles qui leur convenaient le mieux. Au lieu d'isoler Athènes et de la rendre immobile sous des lois immuables, il facilita les communications avec les étrangers, encouragea le commerce, les lettres et les arts, et fit des philosophes, des poètes, des commerçants, des artistes, tandis que Sparte ne produisait que de farouches guerriers. Le nombre des citoyens proprement dit n'était pas relativement plus considérable à Athènes qu'à Sparte. On n'en comptait guère que 20 000 sur une population d'une centaine de mille hommes, comprenant, au-dessous des citoyens, des métèques, des isotèles et des esclaves. Mais grâce à la douceur et à l'urbanité athénienne, les distinctions de caste étaient beaucoup moins tranchées que dans la république rivale. Les métèques, c'est-à-dire les étrangers résidant dans l'Attique sans y être naturalisés, étaient exclus de toute participation aux droits politiques, payaient un impôt de capitation et ne pouvaient devenir propriétaires fonciers. Mais ils exerçaient librement et sous la protection de l'État le commerce, les arts ou l'industrie et obtenaient assez facilement le titre de citoyen pour peu qu'ils fussent de race libre et qu'ils eussent bien mérité de la ville un titre quelconque. Sans arriver à la pleine naturalisation, ils pouvaient être élevés au rang d'isotèles qui leur valait la jouissance des droits civils. On trouve ainsi à Athènes, pour le dire en passant, les trois classes maintenues presque partout par le droit public moderne. Les citoyens jouissant de la plénitude des droits civils et civiques, les étrangers privés de ces divers droits, et entre eux ce qu'on appelle en France les étrangers autorisés par le gouvernement à établir leur domicile dans le pays, lesquels sont admis à exercer tous les droits civils, mais non les droits politiques. À Athènes, plus qu'ailleurs peut-être, le citoyen passait sa vie sur la place publique. Tour à tour juge, avocat, accusateur public, législateur, administrateur, soldat, il abandonnait aux classes inférieures, aux métèques, aux esclaves, le soin de l'agriculture ainsi que les arts mécaniques et ne faisait trêve aux affaires publiques que pour les jeux, les lectures, les spectacles publics. Le père de famille ne rentrait guère dans sa maison, toujours petite et modeste, que pour y goûter le repos de la nuit. Si l'homme vivait toujours hors de sa maison, la femme au contraire ne pouvait en sortir. Pour elle, point de distractions extérieures. Elle n'était même point admise au repas de famille si quelque ami venait y prendre place. Tristement reléguée dans son gynécée, où les plus proches parents avaient seuls le droit de pénétrer, elle ne pouvait se montrer au dehors que dans certaines circonstances exceptionnelles. Les mœurs, sinon les lois, l'astreignaient à une réclusion qui, de fait, n'était guère moins rigoureuse que celle des harems de l'Orient. Nous parlons, bien entendu, de l'époque de Solon et des siècles qui suivirent. Dans les temps héroïques, la femme était tout autrement mêlée à la vie publique. Et l'on a vu plus haut qu'à Sparte, il en était resté ainsi. Tout commerce entre les deux sexes se trouvait rompu de fait, toute vie domestique supprimée, et le mariage, désormais sans attrait, n'était plus, aux yeux des Grecs, qu'un devoir odieux commandé par l'intérêt de l'État. Nous ne sommes pas naturellement portés au mariage, dit Platon dans le Banquet. Il faut les lois pour nous y contraindre. La loi pénale frappait rigoureusement les célibataires. Les femmes, ainsi délaissées, tombèrent dans un abaissement que le temps devait rendre de plus en plus profond. vouée à l'ignorance et à l'inertie du gynécée, elles ne recevaient aucune éducation. Ce qu'on leur enseignait dès l'enfance, c'était, selon Xénophon lui-même, à ne parler, n'entendre et ne voir que le moins possible. Et Platon ne s'exprimait pas moins nettement. Pour elles, la vertu se réduisait à garder la maison, s'occuper du ménage, obéir à leurs parents ou à leur mari. Il n'était qu'une seule classe de femmes qui, libres de toute contrainte domestique, pouvaient se mêler aux hommes et prendre part à leurs travaux comme à leurs divertissements, c'étaient les courtisanes. Les anciens nous les montrent s'appliquant avec ardeur aux plus hautes études et égalant les hommes par la vivacité de leur esprit comme par l'étendue de leurs connaissances. Leur société offrait aux Grecs ces jouissances intellectuelles dont ils étaient si avides et qu'ils ne pouvaient trouver auprès de leurs femmes ou de leurs sœurs. Aussi les courtisanes athéniennes surent-elles s'approprier tout entière cette influence que la femme exerce toujours chez un peuple intelligent et libre. Dans une société ainsi constituée, les femmes étaient privées de toute indépendance. Il y a, disait Aristote dans sa Politique, trois classes de personnes qui ne peuvent agir par elles-mêmes et qui ont besoin qu'on les gouverne. Ce sont l'esclave, l'enfant et la femme. Et il en donnait la raison suivante. L'esclave n'a pas de volonté. L'enfant en a une, mais incomplète. La femme en a une, mais impuissante. Selon Platon, la femme était un être inférieur à l'homme. Les Grecs lui refusaient la capacité juridique à raison de la faiblesse même de sa nature et la soumettaient à une tutelle perpétuelle. Ce n'est pas à dire que la femme fut par là même dépourvue de tout droit. À ce point de vue, le sort de la femme grecque était bien supérieur à celui de l'indienne ou de la juive. Si les Grecs l'entouraient d'une étroite surveillance, ce n'était pas avec la défiance ombrageuse du despotisme oriental. C'était avec la sollicitude, un peu méprisante si l'on veut, mais affectueuse, qu'on a pour un jeune enfant incapable de se suffire à lui-même. L'incapacité de la femme, établie dans son intérêt même, était un privilège comme chez nous celle du mineur. Elle avait pour but de garantir contre toute atteinte l'intégrité de ses droits. Fille, épouse, veuve, la femme grecque est toujours en puissance, elle a toujours un maître. Mais fille, elle a dans son père un tuteur responsable et comptable. Mariée, elle trouve en son époux un protecteur également responsable, responsable de sa personne et de sa dot, car à Athènes, la femme a une dot. Veuve, elle ne reste plus enchaînée, comme en Asie, à la famille de son mari. Elle retourne dans sa propre famille et sous la même tutelle protectrice qui veillait sur elle avant son mariage. Ou du moins, elle a l'option de rester dans la maison de son défunt mari ou de retourner chez son tuteur. Dans ce dernier cas, elle remporte sa dot. Dans le premier cas, les biens d'Otho deviennent la propriété des enfants à la charge de pourvoir aux besoins de leur mère. Qu'elle fût placée sous la tutelle de son père, de son mari, de l'héritier de l'un ou de l'autre, ou à défaut sous la tutelle de l'État, la femme était, au regard de l'un quelconque de ses maîtres, dans la même situation, c'est-à-dire assimilée, quant à la capacité juridique, aux hommes âgés de moins de 18 ans. Elle ne pouvait ni plaider, ni passer aucun contrat d'une valeur supérieure à un médium ou 50 litres d'orge. Seul le curios régissait les biens de sa pupille et la représentait dans les procédés comme dans les contrats. De plus, il disposait de sa main sans la consulter, ce qui avait du reste une médiocre importance dans un pays où il n'existait entre les époux aucune intimité et où le mariage était essentiellement une affaire d'argent entre le tuteur qui comptait la dot et le mari qui la recevait. Le tuteur pouvait même, chose étrange, disposer en faveur d'un tiers de la tutelle et de tous les droits qu'elle lui conférait sur la femme. Le père, en donnant la femme en mariage ou en adoption, le mari, en la répudiant au profit d'un nouvel époux. L'un et l'autre, en la léguant à un parent ou un ami de leur choix, lequel, à son tour, pouvait transmettre son titre. Le rôle de la femme, dans tout cela, était absolument passif. Il semble qu'on ne la considéra que comme apte à donner de nouveaux citoyens à la patrie, et que toutes les lois attiques dussent converger vers ce but unique. Cela est si vrai que le mari pouvait répudier, selon son caprice, la femme qui cessait de lui plaire ou, s'il l'aimait mieux, épouser à côté d'elle une ou plusieurs femmes de second ordre, dont les enfants étaient susceptibles de légitimation immédiate, pourvu que leur mère fût athénienne. Seule, l'institution de la dot, très solidement assise dans le droit attique, mettait un frein à cette facilité de divorce excessive. Toute femme avait le droit d'exiger de son curios une dot proportionnée à la situation de la famille. Or, le mari ne devenait pas propriétaire des biens que lui apportait ainsi sa femme. Il n'en avait que l'administration et l'usufruit, comme dans les régimes sans communauté du droit moderne. En répudiant sa femme sans motif valable, il était tenu non seulement d'assurer honorablement sa subsistance, mais encore de restituer la dot. Pour garantir cette restitution, le mari donnait une hypothèque qui primait toute créance postérieure. Si la femme mourait sans enfant, la dot faisait retour à celui qui l'avait constitué ou à ses héritiers lorsque ce droit de retour avait été stipulé lors du mariage. À défaut de stipulation, la dot était acquise au mari. En matière de succession, les femmes n'étaient pas frustrées de tout droit, mais à parenté égale, elles étaient primées par les héritiers mâles. Ainsi, lorsque le défunt laissait des fils légitimes ou adoptifs, ses filles n'avaient droit qu'à une dot. À défaut de frères, elles recueillaient toute la succession. L'ordre des successions collatérales était réglé à Athènes comme il l'a été de tout temps chez les peuples germaniques. Tous les parents issus d'un même auteur l'emportaient, quel que fût leur degré, sur les parents issus d'un auteur plus éloigné. Étaient appelés, en première ligne, les descendants du même père que le défunt, c'est-à-dire les frères et leurs enfants, puis les sœurs et leurs enfants. En seconde ligne, les descendants du même aïeul paternel, c'est-à-dire les cousins et les enfants de cousins, toujours en préférant le mâle. À défaut de parents de ces catégories-là du côté paternel, la loi appliquait successivement et avec les mêmes distinctions la descendance de la mère et celle de l'aïeul maternel et finalement le plus proche parent paternel. Alors même que les femmes recueillaient les biens à défaut de parents mâles également rapprochés, elles n'étaient pas, à proprement parler, héritières. Elles ne les recueillaient que pour les transmettre à leurs enfants. En général, le père disposait par testament de ses filles héritières en faveur de l'un de ses plus proches parents. À défaut de semblables dispositions, les parents à Athènes comme à Sparte étaient appelés par la loi, dans un certain ordre, à se faire adjuger et l'héritière et l'hérédité. Si le défunt qui laissait une fille laissait en même temps un testament, s'il avait institué un, pour mieux dire adopté un héritier, le premier devoir de cet héritier était de continuer la famille du testateur en épousant sa fille. S'il ne voulait pas l'épouser, il était tenu tout au moins de la marier, en lui donnant, à titre de dot, une partie de l'héritage paternel et en s'engageant à lui restituer le surplus pour l'époque où elle aurait un enfant mâle parvenu à sa majorité. Enfin, s'il n'y avait ni héritier testamentaire ni parent mâle connu, l'orpheline demeurait à la charge et sous la tutelle de l'État. C'était au trésor public à la doter, à l'archonte éponyme à lui trouver un tuteur ou un mari. Ainsi, dans quelque position que le sort pût la placer, la femme athénienne ne trouvait nulle part l'indépendance. Elle avait toujours un maître, mais ce maître était en même temps un protecteur, strictement responsable devant la justice de la personne et des biens dont il disposait. On est encore bien loin de l'égalité relative qu'a prêché le christianisme. Mais si l'on tient compte de la peine extrême que les nations les plus chrétiennes ont eue à donner à la femme sa véritable place au point de vue de la capacité juridique, on reconnaîtra au fond des lois athéniennes un esprit relativement large, bienveillant et libéral, qui plus tard pénétra la législation romaine et y brisa les moules d'un formalisme suranné. Elles peuvent compter à cet égard parmi les lois les plus équitables de l'Antiquité. Ernest Lehr.